Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 9 juillet 93 à Saint-Jeudard.
Je lis cette question étant donné que la vie de l'esprit humain, se développe selon deux directions, intelligence et amour. Ne doit-on pas poser, à partir du principe de finalité, l'existence d'un être où intelligence et amour ne font qu'un? C'est sûr. On aboutit à l'amour subsistant qui implique le point de vue de l'intelligence. On aboutit à l'amour, à l'intelligence première, qui ne peut pas s'opposer, se séparer de l'amour. Ce n'est pas, vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Je vous ai dit, en partant du « je suis », à la différence de ce que dit saint Thomas, c'est ça que j'aurais aimé au terme de comparer. C'est quand même intéressant de voir que la démarche de saint Thomas, qu'on a qualifiée d'une attitude critique à l'intérieur d'une théologie, c'est-à-dire que l'intention de Thomas d'Aquin et de voir le lien entre l'existence de Dieu et l'intelligence humaine. Comment l'intelligence humaine atteint avec évidence l'existence de Dieu. Vous voyez, c'est la reprise du problème d'Anselme, de saint Anselme, devant le petit novice. Saint Thomas a le petit novice à côté de lui. Et il va montrer comment, dans la perspective de la foi, le théologien a la foi. La foi me dit, Dieu existe. La foi me dit, l'intelligence humaine existe. Et la foi me dit même quelque chose de plus. La foi me dit, pour nous, après Vatican I, que l'intelligence humaine est capable, par elle-même, d'atteindre l'existence de Dieu, mais ne dit rien sur ce qu'est Dieu. Le théologien doit donc essayer de comprendre cette affirmation d'Église qui est traditionnelle dans l'Église, je vous l'ai dit, et qui se fonde sur une quantité de textes de l'Écriture qui nous dit que nous pouvons passer du visible à l'invisible. J'ai noté dans le livre Topic historique numéro 2 de Lettre à Dieu tous les textes de l'Écriture qui disent ça. Moi, je croyais qu'il n'y en avait que quelques-uns. Pas du tout. Il y en a des quantités. C'est donc, selon le langage de saint Augustin, un leitmotiv du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cesse de répéter ça, parce qu'il sait que nous aurons de la peine à le comprendre. Et c'est vrai, Luther l'a nié. étonnant à voir combien l'Écriture ne cesse de répéter ça. Alors, il y a quelques textes bien connus, et j'ai pris tous les textes que les pères de l'Église avaient cités. C'est très impressionnant, tu vas savoir ça. Et c'est très impressionnant de voir combien les pères de l'Église, tous, unanimement, affirmaient que l'intelligence humaine peut découvrir l'existence de Dieu, mais ne dit rien sur ce qu'est Dieu. Le quid. Le tiesti. Aussi bien les pères grecs que les pères latins. Là-dessus, c'est unanime. Bon, alors, c'est intéressant de voir comment Thomas d'Aquin, en théologien, établit ce lien en montrant que l'existence de Dieu n'est pas évidente parce que je n'ai pas la signification de Dieu. Ça, c'est la réponse à saint Anselme. Que l'existence de Dieu est démontrable. Donc, démontrable, c'est-à-dire grâce à un intermédiaire. Démontrable, non pas a priori, c'est-à-dire à partir de la définition de ce qu'est Dieu, ce que fait saint Anselme, ce que fait Descartes, modo geometrico, mais à partir d'une démonstration a posteriori, c'est-à-dire à partir de l'effet. N'importe quelle réalité existante est suffisante pour prouver que Dieu existe. Toutes les visibilia attestent que Dieu existe. C'est le cri de toutes les créatures qui remontent vers Dieu. On peut le dire. Mais il faut montrer alors comment. Et saint Thomas emploie les cinq voies. Les cinq voies reposent sur cinq expériences différentes et se servent toutes du principe de causalité finale. C'est mon interprétation, parce que saint Thomas ne le dit pas explicitement. Mais c'est mon interprétation parce que si vous essayez par les autres causes, vous voyez que ça n'aboutit pas. Donc, seule la cause finale au niveau de l'être, c'est-à-dire, à partir de la découverte de la priorité de l'être en acte par rapport à l'être en puissance, ce que je traduis par tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Ce principe de causalité finale peut être donné selon cinq modalités différentes. Et je vous ai dit ces modalités. La causalité finale à l'état pur, la causalité finale liée à l'efficience, la causalité finale liée à la forme, à la causalité formelle, la causalité finale liée, coopérant à la cause exemplaire, la causalité finale coopérant avec la matière. Ceci, si on analyse attentivement les cinq voies, on le voit. Évidemment, très peu de thomistes le disent. Très peu. Quand j'ai dit ça à Rome, dans une petite... un congrès, on m'avait demandé d'exposer la tertia via. J'ai dit ça, j'avais devant moi quelques pères d'un âge respectable, professeurs de l'angélique. Ils m'ont dit non. Je les ai vus après, je leur ai dit, pourquoi vous dites non? C'est la causalité efficiente. Je dis non, ça ne peut pas être la causalité efficiente, parce qu'il n'y a pas de causalité efficiente par rapport à l'exister. Alors il m'a dit, oui. La création. Oui, mais je dis la création, je n'en ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience d'être créé par Dieu. Je regrette. Je suis un païen. Et vous non plus, ça qui est mieux. Vous n'avez pas l'expérience de la création. Si vous aviez l'expérience de la création, il n'y aurait pas d'athée. Vous avez et vous savez que vous êtes un être créé dans la foi, mais pas par l'expérience. Alors allez, vous savez plus quoi dire à partir de là. La discussion s'est arrêtée. Je l'ai dit, je crois que toute la scolastique s'est trompée. Là, c'est pas commun de dire ça, vous voyez. Je suis tout à fait d'accord. Et je crois que ça a joué un rôle très très mauvais, comme toujours, quand il y a une erreur, au sujet de choses aussi importantes. On découvre que Dieu est le Créateur à partir de son existence. D'ordre de question. Et on découvre l'existence de Dieu à partir de la causalité finale. Pourquoi ? Parce que la causalité finale est la cause des causes. Celle qui commande toutes les autres. Donc, pour découvrir le lien de dépendance à l'égard de Dieu, il faut regarder la causalité finale. Ça n'empêche pas que les autres causalités sont présentes. Toutes. Mais dans la lumière de la causalité finale. Ce qui me fait comprendre que les cinq voies de saint Thomas, je dis qu'elles sont dans une perspective critique, parce que c'est l'intelligibilité, implique nécessairement que saint Thomas ait découvert au plan métaphysique les cinq voies. On l'a dans le contrat Gentiles. Mais dans le contrat Gentiles, saint Thomas est encore trop proche d'Aristote. Alors il prend les voies d'Aristote. Ce qui montre combien Thomas d'Aquin est proche d'Aristote. Contrat Gentiles est avant la Somme. Mais c'est le tournant. Nous sommes, nous, en présence des idéologies athées qui ont nié l'existence de Dieu. Nous devons donc repenser le problème. Et repenser le problème de la manière la plus évidente qui soit, la plus métaphysique qui soit, puisque seule la métaphysique peut remonter jusqu'à Dieu. C'est pour cela que je prends l'expérience la plus riche qui soit au point de vue métaphysique du « je suis », donc de ma personne. Vous voyez bien la démarche que je fais. À partir de là, j'ai repensé les cinq manières de regarder la causalité finale. Ce qu'évidemment, la scolastique thomiste traditionnelle ne faisait pas. La distinction de l'être en acte distincte de l'être en puissance. Je découvre ça par une induction. Et ayant découvert l'être en acte distinct, séparé de l'être en puissance, je peux voir le lien qui existe entre les deux, la relation qui existe entre les deux. Et je dis que l'être en acte est premier, indépendant de l'être en puissance qui est second. Et l'être en puissance est tout entier dépendant de l'être en acte. Ça, il faut le saisir en métaphysique. C'est une grande recherche qu'Aristote nous donne dans le livre d'État de la métaphysique. Heidegger, je dis ça pour vous montrer que ce n'est pas un problème qui est loin de la philosophie d'aujourd'hui, que Heidegger considère comme le sommet de toute la philosophie grecque et de toute la philosophie, le livre d'État. Et c'est pour ça que chaque année, il en faisait l'explication avec un petit groupe d'étudiants. Il avait raison. On devrait faire ça ici. Oui, mais si je mettais session sur le livre d'État de la métaphysique d'Aristote, je sais pas qu'il y aurait combien d'étudiants. Ce serait dur, hein? Et puis on mettra en dessous, ne viennent que ceux qui savent le grec. Quelqu'un qui connaît bien le grec, se servir de la Vetus Latina, c'est-à-dire de la traduction latine ancienne. Il faut savoir le latin. Et alors, si on sait ni le grec ni le latin, on est obligé de faire confiance à une traduction auquel on ne peut pas avoir confiance. Celle de Tricot. Et le professeur Bourgeois, qui est le grand spécialiste de Hegel en France, m'a dit, il faut que la communauté Saint-Jean traduise toute la métaphysique d'Aristote. Il m'a dit, moi je l'attends. Parce que pour traduire la métaphysique d'Aristote, il faut avoir compris Aristote. Vous comprenez bien. Si on ne l'a pas compris, on fait des contresens tout le temps. Si on l'a compris, on peut le traduire. Et on le fera. On commence par l'éthique, et puis après c'est la métaphysique. C'est dur. Très difficile. Mais c'est important. Parce que beaucoup aujourd'hui ne savent plus le grec ni le latin. Alors, ayant découvert la primauté de l'être en acte sur l'être en puissance, je vous ai dit 5 modalités de l'être en acte. Je n'ai pas fait ça à cause des 5 voies de Saint-Thomas. Je l'ai fait parce que, tout simplement, quand je suis devant ce sommet de la philosophie, de la métaphysique, c'est l'induction la plus parfaite. Et donc, c'est l'effort le plus pénétrant de l'intelligence de découvrir l'être en acte, distinct d'être en puissance. Cet effort est tellement grand qu'il illumine toute la philosophie. Alors, je vois que par rapport à la métaphysique, l'être en acte au niveau de la substance, c'est l'essai. Et une fois que j'ai l'essai, je distingue l'essai de l'essence. L'essence est toute relative à l'essai. L'essai, acte d'être. Puis, je découvre au niveau de l'esprit le point de vue de la vérité, le point de vue de la bonté. Vérité, être en acte, dans l'esprit. Et alors, qu'est-ce qui est relatif à cette vérité? Le jugement. Tous les jugements sont qualifiés par la vérité, donc ils sont ordonnés à la vérité. Mais il y a quelque chose de très subtil quand il s'agit de la vérité, parce qu'il y a la vérité formelle qui qualifie le jugement, et il y a le vrai ontologique, comme on dira, c'est-à-dire dans la réalité existante. Et je vois que la vérité qui est dans l'intelligence est dépendante de ce vrai-là. Pour la bonté, je vois qu'il y a la bonté et qu'il y a l'amour. Alors je peux dire que l'amour est relatif à la bonté, et je peux dire que la volonté est relative à l'amour. Vous voyez, c'est ça qui est très difficile pour nous, c'est de voir que cette distinction, être en acte, être en puissance, a des modalités multiples. Puis ensuite, donc, 1, 2, 3, 4, opération vitale, 5, mouvement. Alors, les opérations vitales et le mouvement ont ceci de particulier, c'est que de fait, elles impliquent une imperfection radicale en elles, de sorte que la potentialité est présente dans le point de vue de l'acte. Toute opération vitale implique une potentialité. Et tout mouvement implique une potentialité. Donc il n'y a plus la séparation comme dans les trois premiers. À partir de ces distinctions, je peux saisir le principe de finalité. Toute essence, tout être en puissance est ordonné à l'être en acte. Ça, c'est facile à retenir. Hein? Et c'est le principe de finalité au niveau de l'être. Au niveau de la vérité, tout jugement vrai dépend du vrai ontologique. Au niveau de la bonté, tout amour dépend du bien. Les opérations vitales, toute capacité de voir, dépend de l'acte de vision. Et l'acte de vision dépend de l'objet vu. Et le mouvement, il est acte du corps physique. Et donc tout corps physique est ordonné au mouvement. Tout ce qui est mu par un autre. Parce que ce qui est mu comme tel, c'est la potentialité avec l'acte, il implique un autre. Alors, une fois qu'on a découvert ça, on découvre l'intelligibilité profonde des cinq voies de saint Thomas. Mais saint Thomas aurait pu un peu expliquer ça. Il n'a pas expliqué. Alors ça a expliqué ces explications multiples, quasi infinies. Ce n'est pas la faute de saint Thomas, c'est la faute de ses successeurs qui n'étaient pas à la même hauteur. Il ne faut pas oublier que saint Thomas a été condamné par la Sorbonne, qui voulait être plus catholique que saint Thomas. Et elle a condamné saint Thomas parce que saint Thomas est revenu à Aristote, le païen, et qu'il a quitté Avicenne, le croyant. Vous voyez comme c'est curieux. Et ça joue un rôle énorme, ça. C'est la première fureur de la Sorbonne face à Aristote. Toujours mieux aimé Platon qu'Aristote, le défaut mignon de l'université française. C'est vieux, c'est très vieux. Alors ça a d'immenses conséquences. C'est très étonnant, ça, vous voyez, de sentir ça. Alors, une fois que j'ai compris cette métaphysique de l'acte, et une fois que j'ai compris que nous étions aujourd'hui obligés de repenser toute la métaphysique, il faut partir de ce que tout le monde peut saisir, comprenant que le « je suis » implique toute une analyse de l'être et en même temps une proximité unique de l'être. C'est ce que je disais, l'expérience intime, immanente, et l'expérience externe sont liées à cette expérience du « je suis ». Et ça, c'est très important de bien le comprendre. À partir de là, je peux essayer de comprendre dans cette expérience du « je suis » vue sous cinq aspects différents. C'est tellement riche. Nous avons vu hier au soir, si vous vous le rappelez, que le « je suis » a sept dimensions. Alors, pourquoi pas sept voies d'accès vis-à-vis de Dieu ? Et pourquoi cinq ? Je croyais que j'allais avoir cette question. C'est vrai, ça se pose tout de suite, ça. Il y a sept. Vous voyez, c'est curieux, ça. Il y a sept dimensions du « je suis ». Donc, je peux saisir le « je suis » de cette manière différente. Et pourquoi cinq voies d'accès ? Alors, l'aspect formel d'une démonstration ne vient pas de son point de départ, mais du principe qu'on utilise. Or, le principe utilisé dans cette démonstration a posteriori, le principe utilisé, c'est le principe de finalité. Et le principe de finalité n'a pas sept modalités. Il n'y en a que cinq. Ici. Vous allez me dire, pourquoi il n'y en a pas d'autres ? Parce qu'ici, ici, je n'ai pas tout pris, vous voyez. J'ai pris philosophie première. Le vrai, il est partout dans la philosophie. Bonté, l'éthique. Et l'éthique personnelle. Je n'ai pas pris l'éthique politique. La philosophie du vivant, oui, l'opération. La philosophie de la matière, oui, le mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié la politique. Oublié. J'ai laissé tomber la politique. Je ne l'ai pas oublié. La politique, la philosophie de l'art. Voilà ce que j'ai laissé tomber. Pourquoi ? Ah, ça, c'est très important. Parce que c'est ça qui va me montrer qu'il n'y a que cinq modalités du principe de causalité finale. Et ça, c'est facile à comprendre. Hein ? La causalité finale à l'état pur. La causalité finale liée aux autres causalités. Or, les autres causalités, il y en a quatre. Donc, il ne peut y avoir que la causalité finale liée à la cause matérielle, la causalité finale liée à la cause efficiente, la causalité finale liée à la cause formelle. et la causalité finale liée à la cause formelle, puisqu'il y a deux formes de cause formelle. L'une exemplaire, l'autre tout simplement déterminant. Donc il ne peut pas y avoir d'autres relations. Alors, pourquoi la philosophie politique ne m'apporte pas une modalité particulière de l'acte? Parce que le bien commun qui finalise la philosophie politique, il est bien et il est effet. En tant qu'effet, il est le résultat. En tant que bien, il peut être ce qui finalise, acte. En tant que résultat, il n'est pas acte. À cause de cela, qu'il n'offre pas une modalité particulière. Causalité exemplaire. Alors la causalité exemplaire pourrait venir ici pour compléter la question de la vérité. Mais vous comprenez bien que la causalité exemplaire de l'art n'est pas au niveau de l'œuvre, elle est au niveau de l'idéa. Et donc elle est purement intentionnelle. Donc elle n'est pas une modalité de l'acte au niveau métaphysique. C'est, je crois, les deux raisons qui me permettent de montrer qu'il n'y a que 5 modalités de l'acte. Donc une fois que j'ai bien compris ça, je vois que seul la causalité finale sert de levier. Je prends donc 5 expériences du je suis, celles qui sont les plus immédiatement proches de ces 5 modalités du principe de finalité. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous. Et il ne peut pas y avoir d'autre voie d'accès vis-à-vis de Dieu. Maritain a voulu en ajouter une 6e. Par le point de vue du temps et de l'éternité. Mais voyez qu'entre le temps et l'éternité, il n'y a pas de finalité. L'éternité est cause exemplaire et n'est pas la fin de l'instant présent, au sens propre. Et l'instant présent, il affecte une réalité physique, corporelle. Donc, s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas de temps. C'est donc une modalité du temps. C'est donc une modalité du mouvement. Et donc, il se ramène à la 5e modalité. Et c'est pour ça que la preuve de Maritain, c'est une preuve de développement annexe à la prima via. Puisque, en réalité, je crois que vous l'avez bien compris, je mets en rouge ce que je considère comme la 5e voie, c'est la première pour Thomas d'Aquin, la 2e, la 3e, la 4e et la 5e. Ça, c'est facile à comprendre. Et ça met la comparaison des voies de Saint Thomas et de ce que j'ai essayé. Je crois que c'est cela qu'on doit faire aujourd'hui. Il ne faut surtout pas continuer la scolastique décadente. Il faut tout repenser. Autrement, on est en perte de vitesse, mais radicale. J'ai vu ça, j'ai vu, à Fribourg, un bon père bénédictin, dont je ne cite pas l'abbaye, mais l'abbaye est quand même une abbaye bien, bien établie, au point de vue doctrinal, très bien établie. Ce bon père bénédictin vient à Fribourg, envoyé par son abbé, pour achever ses études de philosophie. Il était déjà prêtre. C'était au moment où je faisais la moitié du temps au Solchoir, chez les Dominicains, et l'autre moitié du temps à Fribourg. Je coupais l'année en deux. Ce qui était du reste pas très commode. Je vois ce père bénédictin, on s'embrasse. Il me dit d'où il est. Oh, Dieu, très heureux, très heureux. Je dis, ça va bien les études? Ah oui, elle a dit, oh, c'est admirable. Ah, j'ai compris maintenant. Ah, c'est admirable. Mais oui, pourquoi on ne nous enseigne pas ça dans nos abbayes? Mais c'est la fémologie du CERN qui renouvelle tout. Alors, à ce moment-là, et vous êtes quand même désireux de contemplation, si vous êtes bénédictin. Ah oui, oui. Et vous êtes de telle abbaye. Oui, oui. Mais elle a quand même un certain sens de la tradition de Thomas d'Aquin. Oui, 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 oui. Et voyez pas que vous tournez le doigt à Thomas d'Aquin. Non, non. Il partait du vécu. Alors, c'était évidemment beaucoup plus descriptif. Il était sur le point, heureusement qu'il n'avait pas écrit ça à son abbé, il était sur le point de quitter la scolastique et puis se mettre disciple du CERN. Comment vous voulez-vous contempler ce que vous connaissez? Ce que vous connaissez, ce qui est connu par vous, n'est pas objet de contemplation. Je peux contempler ce que Dieu connaît, parce que c'est Dieu. Mais je ne peux pas contempler ce qu'un homme connaît. Ce n'est pas objet de contemplation. J'ai essayé de lui expliquer ça, il a compris après. Il m'a dit comme c'est séduisant. Vous voyez, si on ne fait pas ça, pratiquement, plus personne ne connaîtra Thomas d'Aquin. Parce qu'on ne peut connaître Thomas d'Aquin que si on a fait l'effort de connaître une métaphysique, une philosophie première. Vous voyez, alors l'effort qu'on a fait pendant ces quelques jours, vous en voyez l'intérêt d'éveiller votre intelligence. Qu'elle ne soit pas une intelligence qui dorme, non seulement l'hiver, comme certaines petites bêtes charmantes, mais, hélas, tout le temps. Je crois que le démon a un chloroforme particulier pour endormir l'intelligence humaine, et que il fait ça nuit et jour. Chloroforme l'intelligence. D'ailleurs, une fois que notre intelligence est chloroformée, on ne peut plus découvrir l'existence de Dieu par l'intelligence. Et on se tourne vers Luther, disant que c'est un très grand homme. Oui, parce que je crois que le danger numéro un d'aujourd'hui, quand le démon a été chassé d'une maison, il revient 7 fois plus fort. on est en présence de ça. Ce retour par la pensée philosophique. C'est ça l'astucieux. L'astuce du démon, c'est ça. Il répète pas Luther. Luther était un bon moine dévot, scrupuleux. Très scrupuleux. Ayant une frousse intense du jugement. Une frousse. Alors, Luther va prendre l'habit de Hegel. Luther n'a jamais pensé à ça. Luther qui prend l'habit de Hegel, vous comprenez ? C'est comme ça qu'il est arrivé au paradis. Et je ne sais pas si Luther l'a reconnu. Bon, il est de bonne volonté, ça sûrement. Hegel est de bonne volonté, Luther est de bonne volonté. Ils confondent sincérité et vérité. Ils sont très peu coupables. Parce que personne n'était là pour leur dire. Ils sont très peu coupables. Et je crois que Dieu a une miséricorde infinie pour ces gens. Ces êtres très généreux. Mais d'autant plus dangereux qu'ils sont généreux. Et c'est vrai. Et Hegel représente une générosité de la pensée étonnante. Voilà. Alors, voyez, on a essayé de dire quelque chose sur ce problème fondamental et ultime de la pensée qui découvre par elle-même l'existence de l'être premier. Alors, découvrir l'existence de l'être premier, c'est découvrir l'être spirituel infini, intimement présent à moi-même. Et c'est ça qui est merveilleux dans cette conclusion, comme au point de départ. C'est que l'être que je découvre, que les traditions religieuses appellent Dieu, il est l'esprit. Un esprit qui subsiste dans son être. Un esprit qui est vérité, qui est amour. Un esprit qui est vie. Un esprit qui est au-delà de toute corporalité et qui est unique. Le philosophe peut dire cela, il doit le dire. Et le problème qui vient immédiatement après, c'est la création. Alors si vous voulez, on continue une nouvelle session, la création.